maintenant, on va démarrer avec le premier thème, à savoir intercritique de l'être humain et du végétal. Et notre première petite histoire nous parle de rhizomes et mauvaises herbes. Je fais des petites fables en introduction, et donc après, je vous mettrai ces petits textes si vous voulez les suivre. Donc c'est juste des petites fables pour vous mettre en bouche, hein, et ouvrir la discussion qui va se poursuivre tout au long de l'année. Donc, j'avais eu envie de réfléchir un petit peu à un texte qui m'avait beaucoup plu, même si Pascal me l'a un petit peu assassiné, mais elle a raison, peut-être en parlera tout à l'heure. Mais ça s'appelle Rhizome, n'est-ce pas? C'est l'introduction de Deleuze et Guattari, Annie Platon, pour notre génération des années 70, c'est un peu emblématique. Nous autres vieux. Moi, je suis pas vraiment un peu 68, je suis plutôt un anti 68, vous avez 13 ans. Mais bon, on a quand même lu ça. Et alors, ce livre a été fertilisé par un autre bonhomme auquel je voudrais quand même rendre hommage, c'est Deligny. Fernand Deligny, il a essentiellement été influencé par Fernand Deligny et sa technique des lignes d'air quand il suivait le parcours des autistes. Hein. Et bon, ceux qui veulent savoir plus de choses sur Deligny, on avait fait un festival nous avons toujours Jacqueline, qui est toujours vivant et qui continue la démarche de Ligny et qui a fait un petit bouquin qui s'appelle, Pascal, comment ça s'appelle ?
La vie de radeau. Le lin, c'est une magnifique fleur. Hein, voilà. C'est une graine, voilà. C'est une plante.
Jacqueline,
très belle, fleur.
Alors, voilà, donc il développe la méthode de Ligny, en fait, dans ce petit esprit, c'est-à-dire, je les cite, c'est eux-mêmes qui disent, on développe la méthode de Ligny, c'est-à-dire faire la carte des gestes et des mouvements d'un enfant autiste. Hein, et quelque part, l'enfant autiste, c'est l'horizon, c'est la plante. Hein, l'enfant autiste est quelque part déjà habité par la plante.
Tu peux s'accueillir,
il est déjà l'homme végétal, c'est plus que l'homme loup, c'est l'homme végétal, l'enfant autiste. Et de Ligny tracer cette carte en suivant les lignes d'air qui manifestent l'horizon, la mauvaise herbe contre l'arbre, n'est-ce pas ? Et l'air est une puissance très importante, puisque dans toutes les sociétés, l'air c'est le vent sec, c'est-à-dire c'est la puissance qui nous anime. Hein. Non seulement c'est ce qui nous permet d'inspirer, mais c'est ce qui existe au-delà et en deçà de nous, l'air. Hein. Donc, tout le texte de Deleuze est basé sur une sorte de parti pris vis-à-vis de l'arbre, qui n'est pas, à mon avis, du tout... botaniste, c'est vraiment une projection, mais une projection partagée, où ils attribuent à l'arbre un langage binaire et hiérarchique, d'un côté, et à l'herbe un langage multiple et hétérogène. Ce faisant, d'ailleurs, ils reproduisent la binarité qu'ils dénoncent dans l'arbre, j'anticipe ça quelque chose de Pascal, mais en même temps, c'est intéressant, parce que ça montre justement comment on essaye de promouvoir, entre guillemets, la mauvaise herbe, celle qui ne sert à rien, voire même qui s'oppose au bon usage, qui est nuisible. Hein, alors sans doute est-elle bonne à soigner. Mais bon, soigner vraiment, lorsqu'on a aujourd'hui toutes les potentialités de la pharmacopée, vraiment les herbes, c'est insuffisant. Et de toute façon, toutes les herbes soignent, hein, plus ou moins. Effectivement, c'est intéressant parce qu'effectivement, mes amis mayas me racontent que lorsqu'on est piqué par un serpent mortel dans la forêt, il y a une manière de soigner si on n'a aucune herbe, et on arrache. Derrière soi, sans la regarder, la première est revenue et on l'enduit sur la blessure, ensuite on la mange et ça soigne. Donc effectivement, c'est une recette tout à fait intéressante. Hein. Alors, c'est plutôt la manière dont l'homme occidental a servi l'arbre, qu'ils sont en train de décrire et de détruire pour ne voir en lui que hiérarchie et unité, alors qu'il est tout autant multiplicité et prolifération. Hein. Ce qui est amusant, c'est que la racine pour Deleuze et Guattari, c'est précisément binaire, alors que la racine, c'est un rhizome. Donc effectivement, là, il y a vraiment quelque chose... d'étonnant, mais en même temps de sociologiquement passionnant, hein, dans leur approche. Quelques citations, j'en donnerai surtout deux, je vous donnerai les auteurs, parce qu'en fait, ils citent des auteurs qu'ils citent des auteurs, et donc c'est une double citation. Je vous donnerai, vous pouvez citer deux, je vous donne trois citations, et après je vous dirai qui. Donc, vous la plantez dans un certain terreau, et tout d'un coup, elle se met à proliférer comme de la mauvaise herbe. Bon, je vous donne des pistes, hein. C'est un musicien très connu. Bon, on verra ça tout à l'heure. Deuxième citation. La Chine est la mauvaise herbe dans le carré de chou de l'humanité. La mauvaise herbe est la némésis des efforts humains. De toutes les existences imaginaires que nous prêtons aux plantes, aux bêtes et aux étoiles, c'est peut-être la mauvaise herbe qui mène la vie la plus sage. Il est vrai que l'herbe ne produit ni fleurs, ni porte-avions, ni sermons sur la montagne. Mais en fin de compte, c'est toujours l'herbe qui a le dernier mot. C'est ce que les historiens appellent communément les ténèbres du Moyen-Âge. Pas d'autre issue que l'herbe. L'herbe n'existe qu'entre les grands espaces non cultivés. Elle comble les espaces vides. Elle pousse entre et parmi les autres choses. La fleur est belle, le chou est utile, le pavot rend fou, mais l'herbe est débordement. C'est une leçon de morale. Voilà pour la deuxième citation. Comme vous le cherchez, c'est un écrivain. Et la troisième citation. Les choses qui me viennent à l'esprit se présentent à moi, non par leurs racines, mais par un point quelconque situé en leur milieu. Essayez donc de les retenir. Essayez donc de retenir un brin d'herbe qui ne commence à croître qu'au milieu de la tige et de vous tenir à lui. Bon, je vous donne les auteurs. Mm-hmm. Bon, le premier, c'était Boulez. Hein, il a planté dans un certain terreau. Le deuxième, c'est Henry Miller.
La Chine.
Et la fleur est belle, le chou est utile, ça c'est Miller. Et le troisième, c'est un certain Franz Kafka.
Qui a dit l'herbe, le dernier mot ?
L'herbe, le dernier mot, c'est l'herbe et débordement, c'est une leçon de morale.
C'est Kafka, alors.
C'est Miller. Mais en fin de compte, c'est toujours là qu'il y a le dernier mot.
Et Kafka, il a dit quoi, là ?
Les choses qui me viennent à l'esprit se présentent à moi, non par leur racine, mais par un point quelconque situé en leur milieu.
Mmh,
essayez donc de les retenir, essayez de retenir un brin d'herbe qui ne commence à croître au milieu de la tige et de vous tenir à vie.
D'accord.
Kafka, ça.
Et deuxième, ouais.
Deuxième.
C'est le troisième,
Kafka, ça.
Non, pas Hacker.
C'était Kafka.
Henry. Henry, l'auteur de Sexus, Nexus Plexus, du Colosse de Maroussis, etc. Big Sur et les oranges de Jérôme Bosch. Le grand Henry Miller.
Le sourire au pied de l'échelle.
Le sourire au pied de l'échelle qui peut être son chef-d'œuvre. Alors voilà pour la première. Maintenant, deuxième petit conte. C'est agréable d'être perché, n'est-ce pas?
Là, il faut
que je... Alors vas-y, cherche. Je te l'ai donné, non?
Tu l'as donné?
Le texte, je l'ai donné tout à l'heure. Tu as perdu, c'est un peu cher, t'as pas. Comme d'habitude, hein.
Et tu le distribues pas à tout le monde pour qu'on sente
pas d'imprimante.
D'imprimante.
Regarde, j'ai même dû les faire à
l'imprimante.
C'est vrai que c'est bête.
Mais on vous le distribuera.
Et dis ce qu'on fait.
Si notre sort est planquant, il est bon de notre blé. À la femme du baron de Calvino. C'était un homme un peu malard qui un beau jour dit à son roi: si j'en ai marre, moi je me barre pour devenir un homme des bois.
Et bien faites donc.
Pour vivre heureux, vive mon péché, dans un grand chemin rocher. Pour vivre heureux, vive mon péché. Haute, 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 haute. Vraiment trop crade, il consentait à prendre une douche. Il se baignait sous une cassette, accueilli par les oiseaux mouches. Pour vivre heureux, vivons pêche, dans les bouches d'un grand chêne. Pour vivre heureux, vivons pêche. Haute, 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 mais pas haute. Pour ceux qui n'ont pas lu le Baron Perché du parent de Calvino, Italo Calvino, courez, jetez-vous, en plus il vient de sortir une nouvelle traduction, donc précipitez-vous. Alors, vivre dans les arbres, moi je me souviens de journées entières passées dans les arbres, quand j'étais gosse, mon HLM était clôturé par un grand grillage, et nous on avait fait un trou dans ce grillage, et on passait par le trou, et derrière il y avait les arbres, le terrain vague, et parfois le responsable, parce qu'il y avait des responsables, l'imam voulait nous courser, mais il était trop gros, et puis il rentrait, puis son cul dépassait de l'autre côté, alors il a fini par ne plus vouloir nous poursuivre. Et nous, on grimpait comme des écureuils, hein, et on se perchait dans les arbres. Juste derrière, il y avait un cerisier, donc on bouffait des cerises, et puis après on continuait. Il y avait un terrain vague avec des vieilles usines, et puis on courait le long des murs, qui était un petit peu branlant, et on se tirait dessus avec des balles au caoutchouc, avec des pistolets, enfin bref, tout ce que les enfants rêvent de faire. Et je ne savais pas qu'à cette époque, en fait, je revivais un mythe très ancien, le mythe des dénicheurs d'oiseaux. C'est très amusant parce que justement, Lévi-Strauss ouvre ses mythologies par ce mythe auquel il ne comprend rien, mais parce qu'il ne le vit plus, mais il commence son travail avec ça, donc il a quand même cette intuition. Hein. Je prenais infailliblement le chemin des oiseaux. Hein. Ça, c'est une phrase. Et donc, aller à la quête des oiseaux, c'est moins les pourchasser pour les détruire que conquérir leur espace, imiter leur manière, se mettre à leur diapason, siffler avec eux, en grimpant aux arbres, en escaladant les falaises. On éprouve l'espace avec une peur, dont certains triomphent et d'autres pas. Moi, c'est vrai que j'avais peur. Hein, et il y a un petit bouquin, là, je ne sais plus où je l'ai mis, de Daniel Fabre, justement, qui a fait une petite préface au mythologique, c'est-à-dire un Perbock, je crois qu'il s'appelle Antonin Perbock, a fait un petit travail sur les chants d'oiseaux et leur signification, qui a été préfacé par Daniel Favre. Peu importe. Et j'ai également, quand j'avais 5 ans, justement, j'étais précoce et je suis tombé d'un arbre. Je me suis cassé le coude. Et 55 ans plus tard, je suis tombé de mon toit, Yucatan. J'étais en train de mettre une palme sur mon toit et je me suis recassé le poignet. Voilà. Et j'ai jamais vraiment su siffler non plus. Alors que siffler et monter dans les arbres, c'était vraiment ce qui caractérisait le chef de bande, quoi, dans mon enfance. Hein. Et c'était vraiment ça, quoi, le dénicheur d'oiseaux, celui qui sait siffler, celui qui sait monter dans les arbres, celui qui sait charmer les serpents. Hein. Et parce que les serpents, n'est-ce pas, les serpents, ils ont une affinité avec les oiseaux. Hein. Et les serpents sont les maîtres du secret. Tu sais, dans la chanson Marie-Madeleine, elle ne l'a pas dit, Marie-Madeleine, elle ne l'a pas dit à mon ami Louis, elle ne l'a pas dit à mon ami Pierre, elle ne l'a pas dit que tu es jolie, mais elle l'a dit à la vipère, et la vipère à ses amis. Mais elle l'a dit à sa vipère, et la vipère a tout dit. Elle l'a répété, Marie-Madeleine a tout répété à mon ami Louis. Elle a répété, Marie-Madeleine, elle a répété que tu es jolie. Et ça, c'est mon ami Pierre Amiot, qui a écrit cette chanson et qui, justement, était un de mes amis quand j'étais petit. Et j'ai fait avec lui un stage de jeu dramatique quand je faisais des colonies de vacances. Autrefois, on appelait ça comme ça. Hein, maintenant, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc voilà pour ce premier axe, la mauvaise herbe. Et peut-être maintenant, quelqu'un d'autre, je ne sais pas si tu avais envie, toi, d'intervenir sur la mauvaise herbe, comme tu me l'avais dit, Amira.
Oui, j'étais en train de chercher, parce que, évidemment, avec tout ce Yucatan, je n'ai pas eu le temps de préparer un truc aussi sérieux comme vous. Mais je n'ai pas trouvé sur mon site web. Mais il y a une phrase que j'ai écrite à un moment donné sur. Sur l'effet disons qu'un geste qui serait pour moi un geste dansé, mais aussi un geste végétal qu'on pourrait adopter pour essayer de sortir de tout cet excès d'humanité, c'est juste de se poser dans un champ comme si on était une friche et de s'effet très vite les mauvaises herbes pourrait commencer à coloniser chaque peur.
Porc
de notre corps. Non, ça pour moi serait une danse que j'aimerais bien faire et avec un peu d'échange, je le ferais juste après mourir. Mais Mais jusque-là, c'est pas... Bon, en fait, un peu comme la chanson des Brassens, ce qui est intéressant avec les mauvaises herbes, c'est qu'il y a juste avant cette notion des mauvaises, non ? C'est-à-dire, elle n'est pas productive, elle n'est pas belle, elle n'est pas... Elle n'a pas besoin de nous pour exister.
Ah, ça,
c'est sûr. Et voilà. Et donc, du coup, elle nous sort des jeux. Et elle est un peu l'expression de tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Elle peut abîmer notre joli précaré. Et je voulais peut-être penser un peu, et peut-être Pascal peut m'aider avec ça, au pissenlit, qui pourrait être un peu la mauvaise herbe par excellence, qui est capable de percer les bétons. D'être un peu au nom pour tout,
oui.
De faire deux fleurs différentes au lieu d'une seule,
mm-hmm.
et d'être utile, même si on se trouve tout perdu quelque part, elle peut nous sauver. Quoi. On peut manger des feuilles, on peut faire des médicaments avec la racine.
Mm-hmm.
Le pissenlit me fait penser, parce que je parle des herbes, il y a des arbres, il y a de mauvais arbres aussi,
ah, oui.
Comme les lentes, le vernis du Japon. Qui ont tendance à coloniser, ou le Buddleia,
oui.
Qui colonise les espaces intermédiaires périurbains,
mm-hmm.
périphériques.
Mm-hmm.
Ouais, l'élan est extrêmement puissant. L'acacia, le robinier, mm-hmm. pseudo-acacia, qui sont considérés un peu comme ça. Ou le Prunus serotina dans les forêts aujourd'hui qui envahit, c'est un gros problème pour les forestiers. Ce sont des arbres qui ont une propriété, et des plantes comme le pissenlit, quand
voilà.
Tu rases c'est l'enfer des gazons,
mm-hmm.
parce que plus tu le rases, plus il repousse.
Mm-hmm.
Les arbres dont je viens de vous parler, c'est pareil, plus on les coupe, c'est une hyper propriété de résilience.
Oui,
c'est considéré en termes
mais c'est aussi l'image de la résistance, c'est-à-dire que sur les savoirs... assassinés, sur les cultures qui ont souffert, ou les communautés humaines ou pas, et elles sont de belles maîtresses, quoi. On peut très bien apprendre de la mauvaise herbe pour imaginer une réémergence de toutes ces choses qu'on a essayé de d'écraser, donc notamment les savoirs, je ne sais pas, des femmes, les savoirs indigènes, ou les corps non conformes, ou les intelligences pas rationnelles, ou la façon de manifester la connaissance par d'autres voies qui n'est pas le bon usage de la parole. Et donc, c'est-à-dire que souvent, on peut associer les logos à l'intelligence, et cette manière très logique de structurer un discours, de faire exister une pensée, et de construire quelque chose avec ça. Donc, pour moi, on peut très bien s'appuyer sur la mauvaise herbe pour essayer de regarder du côté de tout ce qui est subordonné ou opprimé. Voilà, mais je ne sais pas si je peux faire un apport plus profond que ça aujourd'hui, mais en tout cas, après, évidemment, on peut citer Gilles Clément, qui a beaucoup discoursé sur cette idée que la mauvaise herbe n'existe pas, qu'en fait, c'est juste un mauvais usage
Pourtant,
et
il y a la malherbologie, j'ai appris qu'il y a une discipline, il y a un professeur de malherbologie à l'Intertech Paris.
Malherbologie.
Ouais, et Paris, donc malherbologie s'appelle Josin.
C'est Boulevard Malzerbe.
Donc effectivement, lui, il est vraiment dans un espèce de truc, à mon avis, impossible. C'est qu'à la fois, il étudie tout ce qu'on considère comme mauvaises herbes, et en constatant leur déclin extrêmement rapide à cause de l'usage des pesticides et tout. Et en même temps, il travaille, il l'a quand même dit, hein, il travaille avec ceux qui veulent détruire la mauvaise herbe, donc on va les nommer, quoi, les fabricants de pesticides, herbicides, pour essayer de faire des produits les plus ciblés. Ça fait un peu bizarre. Mais donc la malherbologie est une discipline.
C'est très joli, c'est comme l'acquisition.
Ouais, c'est totalement décalé parce qu'en biologie...
Oui, mais bien sûr.
En biologie, on sait aujourd'hui qu'on considère des catégories beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, c'est les adventices. Même au niveau terminologique, ça a complètement changé. Quoi. Ouais.
Après, il y a les valeurs culturelles de la mauvaise herbe. Et là, par exemple, sur la nouvelle pièce qu'on est en train de créer, c'est une pièce, ça c'est très fortement concrétisé au Yucatan, c'est sur la rue, ouais. Et qui est une herbe qui est une plante sacrée, mais qui en France, depuis 1952, est interdite en herboristerie, à la vente. Et parce qu'elle est considérée toxique. Bon, c'est vrai qu'à niveau topique, on peut avoir des réactions, mais ça, elle est partout, donc on peut l'avoir quand même. Mais quand une fois elle est coupée, c'est difficile d'avoir ces réactions allergiques. Mais en Chine, en Grèce, en Rome, en Europe, en Amérique latine, est une plante tout le temps liée à la sorcellerie. Et à Izamal, on a vu... Izamal, c'est une petite ville... Tu peux raconter très bien qu'est-ce que c'est, Izamal, une petite ville coloniale au Yucatan, où il y avait...
C'est d'abord une grande ville maya, et puis c'est devenu une ville coloniale.
Voilà. Et il y a 3 semaines, il y avait une fête religieuse autour d'un sang qui est un Christ, en fait, un Christ noir, qui est transporté...
Le Christ de Sitilpech, qui se passe à 6 kilomètres.
Oui, voilà. Qui est transporté dans les bras, comme ça. Mais c'est très drôle, parce qu'il est tout noir, mais dans toutes les maisons, il y avait des photos d'un mec tout blanc. Qui arrivait à l'église et les personnes rentrent faire une offrande et puis se faire bénir avec de l'eau bénite et tout, mais ils prennent une rame des rues pour faire ça.
C'est ça.
Donc c'est intéressant de voir comment cette mauvaise herbe elle arrive à s'infiltrer quand même et à continuer à exister. Bon, en Amérique latine est différent parce qu'elle est vraiment sujet à culte un peu dans tous les pays que je connais en Amérique latine, en tout cas de Pérou vers...
Ouais. La rue, aux côtés des plantes mayas, comme le sipché, qui veut dire l'arbre libérateur, ou le pancaché, qui est l'arbre de l'énergie vitale cosmique, la rue a pris sa place pour travailler avec les vancêtres, c'est-à-dire avec les esprits, les énergies fondamentales, ce qu'on appelle les esprits. Un vancêtre, c'est un esprit, c'est-à-dire c'est un vent qui est en même temps ancestral, puisque la forme fondamentale de l'ancêtre, c'est le vent. Donc on voit bien comment notre mauvaise herbe est devenue une herbe sainte, une bonne herbe, aux côtés des herbes.
Oui. Mais elle a une très mauvaise réputation, de toute façon. Donc c'est intéressant de voir de quelle
chez
façon
nous,
elle
mais
est.
Mais pas là-bas.
Non, pas là-bas. Mais là-bas, elle est associée à la sorcellerie. Donc si tu veux être très.
En Colombie.
Mais, je veux dire. On peut utiliser les termes sorcellerie comme on veut, mais ce qui est clair, c'est que dans toutes ces cultures que j'ai nommées tout à l'heure, c'est une herbe qui est utilisée pour communiquer avec les mondes invisibles.
Ouais. Mais les saints, par exemple, les saints font partie du monde invisible, donc justement, c'est l'herbe des saints, c'est l'herbe des saints, c'est l'herbe de la Vierge, c'est l'herbe catholique.
Ça, c'est au Yucatan.
Au Yucatan.
Ouais.
Parce que les saints sont des ancêtres, il n'y a pas de différence entre le saint d'un côté et, entre guillemets... l'esprit. Le saint, par exemple, peut être lié à la pluie.
Donc, à part les problèmes que peuvent poser les mauvaises herbes comme épidémie dans certains écosystèmes, ce qui est vrai, c'est qu'elles sont capables de recréer des écosystèmes et d'exister dans des conditions de pauvreté. Oui. Parce que c'est ça qui est le propre de la mauvaise herbe. Elle peut pousser dans des conditions très précaires.
C'est ce qu'on appelle une espèce pionnière.
Environnement, c'est incroyable.
Pionnière qui réhabite des espaces qui ont été dévastés. Donc en fait, on est dans tout complètement, même en termes biologiques aujourd'hui, sur ce que tu dis là.
C'est la résistance.
C'est la résistance.
Résilience.
Résilience, résistance. Tu me coupes, je repousse ailleurs. Je serai jeune.
Les résistants sont des terroristes.
Le robinier est terrible pour ça. Hein. Plus tu le coupes, plus il fait des épines, et plus il repousse.
Des terroristes.
Loin.
Ouais.
Et le chien-dent, pareil. Hein.
Ouais.
C'est entendu. C'est même devenu une expression quand on veut traiter quelqu'un de chien-dent ou de montrer qu'il est vrai.
De Gaulle avait dit la chien-lit.
La chien-lit, c'est pas tout
à fait pareil. C'est genre de...
Mais pour répondre un peu à la question qu'on avait tout à l'heure sur l'excès d'anthropo quelque chose sur ces figures végétales qu'on évoque, c'était en tout cas l'envie qu'on avait avec devenir plante. C'est peut-être pourquoi je peux me permettre en ce moment d'essayer de faire des métaphores et d'associer les savoirs sorciers à une plante ou la résistance de certains peuples ou la résistance nécessaire à cette tendance à l'uniformisation de la planète avec les mauvaises herbes, c'est pas autant pour faire un exercice forcé d'anthropomorphisation ou d'attribuer à la plante, mais plutôt pour voir comment ces êtres vivants ont des stratégies sur lesquelles on peut s'inspirer pour modifier les stratégies dominantes qu'on a mis en place en tant qu'espèce.
Dont on peut s'inspirer aujourd'hui, mais pour abonder dans ton sens, c'est qui nous inspire depuis très longtemps. C'est pas forcément l'anthropomorphisme, c'est plutôt que nous avons identifié dans ces capacités qu'on a observées des plantes, quelque chose que l'on souhaite, qu'on a besoin de cultiver aussi en nous, et de développer dans les sociétés. C'est-à-dire cette capacité de résilience et de résistance, elle est antérieure à nous. Or, tous les peuples de la nuit des temps, on peut l'observer et se dire, là, ça, cette capacité, ce pouvoir qu'elle a, c'est un pouvoir que je veux aussi maintenir.
Non, mais ça, c'était par rapport à la conversation qu'on avait avec un... Parce que Manuel se demandait beaucoup tout à l'heure pourquoi on était en train d'anthropomorphiser autant les arbres ou autant les plantes.
Oui, mais c'est une question fondamentale.
Par rapport à ce que tu as proposé.
Mais souvent, quand Francis Allais, dans les discussions avec Francis Allais que nous avons, c'est un des plus grands, quelqu'un qui est vraiment très très ferme, un grand scientifique, très très ferme contre toutes les formes d'anthropomorphisme, sauf là, il commence à plus en plus parler de poésie aussi, il dit, oui, là, ça tolère, pas au niveau scientifique, il a raison, quelque part, mais j'ai dit, mais même au niveau scientifique, fais attention, parce que, il y a des choses que tu peux considérer comme l'anthropomorphisme, mais qui sont peut-être au contraire de la plantomorphisme.
Du végétomorphisme.
Mais. Oubliez.
Le végétomorphisme. Par rapport à l'anthropomorphisme, on parle de simplicité, enfin de manque d'imagination pour parler de la plante.
Ça, par contre, oui. Mais ça, c'est voilà. Il faut considérer dans la plante d'autres dimensions que les nôtres. Ouais.
Et c'est
ça,
vrai c'est, que.
Ça, là, il a complètement
dans
raison.
Dans Rhizome de Deleuze, tu le dites que. Moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était vraiment ce qu'ils avaient envie de dire eux, et qui s'emparaient d'exemples, mais que je trouvais vraiment pas de quelqu'un qui avait vraiment. Beaucoup la main avec la plante. Je trouvais ça très intellectuel, moi.
Moi, Deleuze, ça fait des années que je... J'ai un problème, ça me pose un problème. Tu l'as relevé, c'est bien, c'est super, parce que t'as donné les nuances, oui. Mais ça pose un problème, parce qu'il crée un mythe de l'arbre comme symbole de la structure pyramidale. Alors que ce n'est pas ça.
Ouais. Il reproduit le dualisme, comme je le disais.
Et il fait une forme d'anthropomorphisme aussi. C'est-à-dire qu'il utilise, en fait, il instrumentise l'image de l'arbre. Et il, en plus, la fixant sur une imagerie qui est très récente. Hein, c'est l'arbre du roi, sous lequel le roi. Sous la justice.
Tu vois, comme ça, il force les choses. Je veux dire, c'est classique.
Bah ouais, mais enfin bon, là, il se heurte à. Dans la modernité. Dans la modernité, il se heurte à une métamorphose de la connaissance aujourd'hui qui démontre tout l'inverse, quoi. Ouais. Vraiment tout l'inverse. C'est que l'arbre est en même temps. Sauf, pas tout l'inverse, mais il est beaucoup plus complexe que ça, quoi. C'est qu'il n'aurait pas dû s'attaquer à l'image de l'arbre pour moi. Parce qu'il il fige lui-même, par sa reconnaissance. Il fixe un mythe aussi, quoi.
Oui. En même temps, ce que je montrais, c'est que quelque part, il écrase Deligny. Alors qu'en fait, Deligny, lui, a une pensée très différente de celle de Deleuze. Et c'est pour ça que j'avais souligné le rapport, mais bon, c'est une question de détail.
Mais je pense que la conversation, on serait très bien entendu, mais dans l'écrit, c'est la problème entre l'oral et l'écrit.
De par sa stature, justement, sa stature.
Bah, il a vu que le tronc, quoi.
Mais voilà. Si je comprends bien, vous commentez ce qu'elle vous...
Le masculin.
De commenter, mais c'est vous qui le faites à sa place alors.
Ah non, tu n'as pas compris. Alors je vais t'expliquer, Pierre. Dans chaque thème, il y a une personne qui fait une petite introduction après moi, et ensuite on discute tous ensemble. Donc,
à bâton rompu.
Bienvenue à discuter.
Hein. À bâton rompu.
Oui.
Je m'interroge sur la notion de plante invasive. Je ne sais pas si vous voulez en parler aussi. Parce que ça me dérange qu'on parle de mauvaises herbes.
Bien sûr.
Et alors que. Et parce que c'est. Je ne sais pas jusqu'à quel point on doit justement faire des analogies avec notre société humaine. Les arbres qui migrent, les plantes qui envahissent des.
Ah oui.
Voilà.
On est complètement d'accord.
Tu parlais des oiseaux dans les villes. Toi, les oiseaux dans les villes, c'est aussi souvent des.
C'est des migrants.
C'est des migrants.
Exactement. Mais on est d'accord, c'est pour ça que je disais qu'au niveau terminologique, aujourd'hui en botanique, et en biologie et en botanique, il y a presque discussion. Mais ceux qui pleurent encore de plantes invasives et de mauvaises herbes sont complètement has-been. Parce qu'aujourd'hui, on parle de pionnières et d'adventices. C'est-à-dire les pionnières, elles ont une intelligence de création par rapport à des changements de l'environnement. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'adaptation supérieure. C'est pour ça qu'elles se déplacent plus vite. Et encore, ça n'en fait pas une supériorité au sens hiérarchique du terme. Parce que celles qui se déplacent moins vite, elles placent leur capacité de résilience à un autre niveau. Donc, bon, au niveau scientifique propre et au niveau biologique, ça n'a aucun sens de parler d'invasives. C'est clair, maintenant on le sait. Après, quoi. Enfin, les biologistes honnêtes le savent.
On le sait, mais... Oui, mais il y a cette question de qui définit en fait ce qu'est une mauvaise herbe. Parce qu'on a tous en tête.
C'est le service des espaces verts, quoi. C'est pas un scientifique.
Non, mais voilà.
Mais sur la notion
c'est l'urbaniste.
Et puis même la notion d'invasive ou la malherbologie.
Ou le paysan.
C'était par rapport au rendement, en fait. Ouais. C'est très clair.
Ouais. C'est ça
le mec
ça n'a rien de scientifique.
Qui est professeur à Cotech, c'est parce qu'il sait scientifique. Lui, il va se proposer comme scientifique.
C'est technologiste.
C'est parce qu'il faut être au service d'une productivité du rendement. Et il ne dit pas autre chose. Mais ça m'a étonnée parce que c'est un MOOC que j'ai fait qui c'était sur les mauvaises herbes folles. Hein, parce qu'il faut savoir que l'autre terme, c'est herbes folles.
Ça, c'est beaucoup plus sympathique.
Et là, c'est beaucoup plus rigolo parce que folle, c'est aussi plein d'esprit. Hein, donc, mais en tout cas, j'ai été étonnée de voir la prégnance, le fait que ça soit encore assez massif, cette idée quand même de qu'ils font s'en débarrasser, qu'il y a des plantes invasives, ça reste. Hein,
c'est sur la notion d'invasif, il y a un banc. C'est des données, je ne me souviens pas les noms, mais je peux vous l'envoyer. Vous pouvez consulter toutes les espèces invasives dans le monde en ce moment, dans un banc des données qui existe.
Il y a des gens qui te disent que tout ça, c'est la fabrication totale.
Bien sûr, mais ça, il part d'espèces aliens et d'espèces indigène, c'est
ça c'est une autre, c'est un autre débat et ça dépasse la question de l'espèce invasive après il y a effectivement des espèces aujourd'hui avec la mondialisation des espèces qui s'installent dans des écosystèmes qui sont pas propres et à avoir des résistances donc elles vont se développer de manière expansionnelle. Un peu comme la mondialisation.
Un peu comme les êtres humains.
Qui est pas linéaire.
Je donne la parole à ceux qui n'ont pas du tout.
Je voulais intervenir sur deux choses, parce que je pense que dans le mot herbe folle et donc espèce invasive, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure que je définirais comme celui qui est de la migration, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un territoire où la plante n'a pas eu, ne s'est pas développée et n'est pas née, comme par exemple des colons qui sont arrivés avec des graines, qui les ont implantées dans un paysage et qui se sont développées comme à la manière des lapins ou des espèces qu'on a introduites dans un endroit où il n'y avait pas le prédateur et elles ne faisaient pas partie d'un écosystème, elles étaient nouvelles dans cet écosystème et du coup elles se sont développées beaucoup plus vite que si jamais elles avaient été dans leur propre écosystème. Du coup, il y a eu une sorte de changement de statut, moi j'appelle ça comme ça, où tu as cette plante qui ne devait pas être là et qui, parce que les conditions étaient nécessaires et permettaient son développement, s'est surdéveloppée parce qu'elle ne rencontrait pas le prédateur qu'elle aurait pu rencontrer dans son propre écosystème. Et il y a aussi une autre notion qui est la notion d'espèce. Je vois par exemple, je vais le dire autour d'un exemple très clair qui est quand je suis rentrée chez mes parents, et mon père qui arrachait les mauvaises herbes dans le jardin et qui a mis un filet en dessous les graviers pour éviter que la mauvaise herbe qu'il ait à se baisser parce qu'en plus il n'utilise pas de Roundup. Ça, c'est une lutte qui est quand même incroyable quand on veut avoir des belles maisons, des espaces qui sont entre guillemets, hein, selon des standards qui sont un peu incroyables. On veut que tout soit très propre et l'herbe intervient, ou même les microplantes qui arrivent à pousser dans l'espace de notre maison interviennent comme des phénomènes qu'on ne veut pas en fait. Alors que si on se replace à cette échelle de Bah, qu'est-ce que c'est qu'une plante? Cette plante qu'on peut trouver dans nos allées de garage et qui s'investit là, on ne vient pas à se poser la question de comment est-ce qu'elle est atterrie là. Non, c'est comme une sorte de virus, en fait. Ça devient comme une sorte de maladie qui va nuire à notre espace. Alors qu'en soi, si on se replace à l'échelle même d'une sorte de petite pousse, de petite graine, on peut essayer de changer cette idée et se dire que, au final, cette plante, cette graine, c'est aussi exactement comme le mimosa qu'on a planté à tel endroit et à tel espace pour que ce soit beau. Parce qu'en soi, quand on se pose et qu'on regarde ce mécanisme de croissance, c'est assez incroyable. Mmh. Sauf qu'on a été un peu endigué par je ne sais trop quelle loi qui nous dit actuellement si vous avez un jardin, il faut que votre jardin soit nickel. Il faut qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes dans vos allées parce que c'est moins beau. C'est moins
la question de faire propre, comme tu l'as dit.
Voilà, exactement.
Mmh. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison en développant deux axes. Il y a la mauvaise herbe qui est celle qui est migrante, qui correspond à un phénomène de mondialisation où il y a des transferts biologiques qui sont ultra rapides, dans lesquels les environnements n'ont pas forcément le temps de préparer l'accueil, quoi, ou qui arrivent massivement très vite. Et puis il y a la notion de la mauvaise herbe, c'est-à-dire en fait elle est tout à fait d'ici, sauf que comme on est dans la logique de faire propre, c'est pas la même mauvaise herbe. Elle n'est pas attaquée de la même manière, voilà. C'est juste, elle répond à cette logique du propre. Et on voit en terrain forestier, c'est aussi des choses qui sont en train de bouger. Pendant des années, là, on faisait propre. Si on va dans la forêt des Landes, qui n'est pas ma forêt, là, ils font propre, là, ils passent le broyeur et tout ça, y a rien dessous. C'est d'une pauvreté incroyable. Et en futaise jardinée, où on va aujourd'hui maintenir des arbres niches écologiques, on va laisser les arbres, les rémanents, tous les arbres, toutes les branches qu'on coupe, etc. On laisse tout sur place et ça fait de la... Et en fait, ça participe et ça favorise les mauvaises herbes ou les plantes adventices qui reprennent. Après, l'adventice ou la pionnière, elle va être, juste je terminerai là-dessus, elle va être capable de réinventer, elle est, dans un premier temps, elle a tendance à être envahissante et à être un peu monoculturelle. Mais parce qu'elle, effectivement, elle prend de l'espace sur les autres. Elle est super spécialisée. C'est des termes importants, quoi. Mais elle prépare un couvert pour des graines en dessous. Elle va d'elle-même disparaître.
Voilà.
Alors, encore peut-être une ou deux petites interventions. Je rappelle, l'idée, ça, c'est de commencer à explorer. Donc après, on va passer au deuxième axe, c'est frontières plus loin. Donc peut-être encore une ou deux interventions rapides.
Rapidement, donc, je voulais, après ce que tu as dit sur ce qu'on fait à AgroParisTech pour lutter contre les mauvaises herbes, il y a des moments où on parle de l'interaction de l'homme avec les plantes et toute l'agriculture, c'est une gestion de... Enfin, poser la question du colonialisme de l'homme sur... sur les plantes et sur la nature.
Bien sûr. Mais cela, il ne se la pose pas. Hein.
Non, mais je pense que ça nous concerne tous bien autant sûr. Qu'on est, parce qu'on parle de notre relation aux plantes, à la nature et comment on les instrumentalise. Et surtout, je voulais aussi mentionner que les plantes, c'est aussi des plantes aquatiques et que dans ces histoires d'invasives, il y a beaucoup d'algues invasives. Mm-hmm. Et quand j'étais ado, on parlait beaucoup de l'invasion de la Méditerranée par les colères. Et qu'il y avait des domaines de biodiversité incroyables près de Monaco qui avaient été colonisés par ces algues.
Au Mexique, c'était cette algue.
Voilà, il y a aussi maintenant c'est l'histoire de sargasses.
Là. Voilà, sargasses.
Mais
c'est pas bizarrement,
la nature finit par reprendre ses droits au bout d'un certain temps. Et en Méditerranée, si j'ai bien compris, là, j'ai l'impression qu'il y a eu des phases de déséquilibre et une sorte d'équilibre est revenu et on parle plus de ces trucs-là. J'ai l'impression que le problème est résorbé. En fait, c'est une question que je pose.
Ouais. C'est pas parce qu'on en parle pas.
Oui, oui. Enfin, voilà, c'est une question que je pose aux vrais spécialistes, à vrai dire.
La télé et la directe.
Qu'en est-il de, donc des équilibres qui finiront peut-être par revenir.
Ouais.